nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. La matinée à chercher dans le quartier, personne ne lui dit qu'elle l'a vu, qu'il l'a vu. Elle dépérit. Tous les jours au commissariat et toutes les nuits elle passe les passe devant sa fenêtre. Charlotte l'invite pour le thé, un après-midi. Elle y va parce qu'elle se dit qu'on ne sait jamais qu'elle peut avoir des nouvelles. Charlotte la reçoit, la trouve maigre, nerveuse.
Viens t'asseoir, ma chérie.
Elle la fait asseoir dans un fauteuil.
Et lui demande.
Elle?
Émilie lui dit. Une nuit, je l'ai vue devant la maison. Je l'ai appelé, mais il s'est enfui. Il devait avoir peur de revenir après tout ce temps.
Charlotte lui dit, tu es sûre que c'était bien lui?
Oh oui, j'en suis certaine.
Il faut absolument faire quelque chose pour qu'il revienne.
Charlotte se dit, elle se dépérit, il faut l'aider. Elle lui dit,
écoute, Émilie, j'aimerais t'inviter chez moi, en Bourgogne, dans mon château.
Émilie lui dit, mais je ne peux pas, si on revenait. Elle lui dit,
aussi pendant ton absence, je prendrai la surveillance. mais j'aime mieux c'est rester ici, à Versailles, chez moi. »
Charlotte lui dit, « Tu ne peux pas rester comme ça. Tu es en train de dépérir. Qu'est-ce que tu ferais si tu tombes malade ? Non, tu as besoin de toute ta santé. Il ne faut pas que Didier te voie comme ça. Tu fais 10 ans de plus. »
Émilie fait, « Ah, tu crois ?
Oui, tu dois te reposer et penser à autre chose. C'est pour ça que je te conseille, c'est d'accepter de venir avec moi dans mon château. Nous ferons de longues marches dans le parc, dormirons tôt. Moi aussi j'en ai besoin avec toutes ces soirées que je fais. Je veux dépérir comme une fleur qui manque d'air et de soleil. Et ce sera de ta faute. »
Oui, parce que je ne pourrais pas partir si tu restes à Paris. Je me sentirais coupable, tu comprends ?
Émilie lui dit, tu es une véritable amie et ma seule. Oui, j'accepte de partir avec toi, mais c'est surtout pour toi que je le fais.
Mais à condition, c'est qu'une personne reste en permanence dans la rue et si elle voit le petit, qu'elle le fasse rentrer et me prévienne de suite.
Charlotte lui dit, c'est promis. Et elle l'embrasse.
Le commissariat du quartier mettra toutes les nuits un agent en civil et les domestiques surveilleront la nuit.
Émilie part avec Charlotte un vendredi matin. En voiture, il fait beau et chaud.
Le voyage se passe bien. Charlotte, au château, lui a donné sa plus belle chambre d'amis. Il a demandé aux cuisinières de préparer de la bonne cuisine bourguignonne. Sa journée à se promener dans le parc, à bien manger et à lire. Charlotte fait tout pour que lui oublie pendant quelque temps ses peines. Ne lui parle jamais de Paris. Pour l'occuper, elle lui dit qu'une fois, une jeune femme a été empoisonnée dans le château, qu'elle était la maîtresse du propriétaire du château. Et que pour étouffer l'affaire, on a fait incinérer le corps. Émilie lui demande, c'est horrible. Et était-elle jolie?
Oui, très. Et paraît-il très dangereuse. Une espèce de gitane, quelque chose comme ça.
Les jours passent. Émilie semble mieux aller. Le bon air, la bonne cuisine et une vie bien réglée lui donnent des forces. Pour ne pas gêner son hôtesse, elle ne lui parle pas de Didier. Mais il pense sans arrêt. Malgré elle, au fur et à mesure du temps, son attente devient, malgré elle, comme un veuvage. Elle dit ou se dit, il était, il faisait, le passé est devenu monnaie courante, normale. Elle ne pense qu'à lui, qu'au passé. Elle ne voit plus que des scènes passées. Mais de moins en moins dans des scènes futures. On peut dire que le deuil fait son travail. Pourtant, elle continue à l'aimer. Et elle le souhaite toujours. Mais son souhait n'est qu'un pieux souhait. Et puis... elle est loin du décor de son drame. La bonne entente avec Charlotte, qui lui parle nature, elle lui fait faire un herbier, et chiffon, littérature, surtout celle du 19e siècle. Qui a un attrait plus que la littérature moderne. Un livre du 19e qui soit de Balzac, Hugo et même Dickens, etc., reste hors du temps et universel. Ça vous parle au corps. Au corps des gens de toute époque, même si l'histoire a elle-même un peu démodé à cause du fond, mais le corps reste, parce que ça parle des choses qui vont au corps, tandis qu'un roman moderne ne va pas en profondeur, ne s'enfonce pas dans le corps des gens. Quel est le livre moderne qui sera autant et si longtemps lu que Les Misérables, et autant adapté en pièces, en films, etc. Je dis ça et pourtant je n'aime pas du tout Victor Hugo, et surtout pas ces Misérables. Mais enfin, c'est bien. Quel est le livre qui sera autant adapté et lu que Les Trois Mousquetaires, etc., etc. Et tous les personnages de Balzac, qui au-delà des époques, nous touchent au corps. Donc, ces dames, le soir, lisent de bons vieux romans du 19e. Émilie mène une vie calme et tranquille d'une femme veuve qui portait à Patty accepte le veuvage. Elle en a déjà eu l'expérience avec la mort de son mari. Les jours passent. Après un mois de campagne, il faut s'en retourner. Maurice écrit à sa femme pour lui dire qu'il serait temps de rentrer. Elle le dit à Émilie.
Écoute, nous allons être obligés, c'est de rentrer. Mon mari me demande.
Le temps passe. elle s'en retourne, un peu triste. Émilie s'est habituée à cette vie. Elle la quitte avec regret. Elle n'est pas contente de retrouver Paris, la ville et tout. De quitter cet endroit charmant joue aussi pour son veuvage, parce qu'elle regrette l'endroit où elle est venue se terrer pour oublier. C'est qu'elle veut oublier, ou en tout cas se faire une raison. Elle s'en retourne à Paris en voiture. Émilie, durant son séjour, n'a pas une seule fois téléphoné pour avoir des nouvelles. Il est vrai que c'était un peu difficile à cause de son ami. Arrivée à Paris, Charlotte va déposer Émilie à Versailles, devant sa maison. Elle s'embrasse. Émilie lui dit « Merci pour tout ». Charlotte lui dit « Je suis heureuse ». Tu sembles en pleine forme.
Oui, et c'est grâce à toi. Merci, nous reverrons. À bientôt.
Oui.
Et elle quitte la voiture. Puis, entre dans son jardin. Et entre dans la maison. Le domestique lui ouvre.
Bonjour madame.
Bonjour.
Elle entre.
Je vais directement à ma chambre.
Et elle monte à l'étage. Elle ne parle plus de Didier, pense qu'il est définitivement mort, définitivement disparu. Les jours passent. Thank you. Les domestiques pensent qu'elle est guérie. Charlotte le pense aussi. Mais la nuit, elle est, de temps en temps, réveillée par un pincement au corps. Quelque chose, une pensée, lui vient, entre en elle, je rappelle, et puis ça lui fait mal. Elle voit son visage, son sourire, sa façon de se déplacer. Elle ressent sa chaleur. Tous ses souvenirs lui font mal. Elle n'en parle à personne. Elle ne veut pas y penser, parce que pour elle, c'est fini. Elle ne le reverra plus. Il a dû être enlevé. Et tué. Les jours passent. Extérieurement, elle est devenue comme avant, une femme belle, délicieuse et très intelligente. Mais quelquefois, l'espace d'une seconde, son regard s'assombrit, comme si une douleur venait la voir pour lui dire qu'elle n'est pas guérie. Ceci est très rapide et fait très mal. Mais dans la nuit, au fond d'elle-même, quelque chose lui dit que peut-être, mais non. Il est bien mort. À quoi bon? À quoi bon de faux espoirs? Les rues de Paris sont nombreuses. Il y en a des petites, étroites, sombres. Des ombres passent fugitivement. Peut-être que parmi ces ombres, il y a un jeune garçon avec une casquette de marin qui ne sait plus vraiment qui il est. Où il va, et c'est une chose, c'est qu'il doit se faire méfier des autres. Il ne sort que la nuit, cherche dans les poubelles pour manger, reste la journée caché dans les caves. Si
il a envie. Il est comme ça. Mais peut-être est-il en vie. Les jours passent. Un jour, dans son bureau au siège, Maurice reçoit Harold.
Me voir, je vous écoute.
Harold lui dit, eh bien voilà monsieur, j'ai une affaire à vous proposer. Un très bel hôtel particulier au Marais est à vendre. Très intéressant.
Maurice lui dit, mais moi, je n'ai pas besoin d'un logement pour le moment.
Harold lui dit, j'ai pensé que ça pourrait être bien pour votre fils, serait intéressant pour lui. Il commence à prendre de l'âge et à être en âge pour se mettre chez lui. En plus, ce sera un bon placement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Maurice lui dit, mon fils, Gilbert, se met me quitter pour vivre seul. Je n'y avais pas pensé.
Harold lui dit, pourtant, monsieur, il est en âge de se mettre chez lui.
Je vais y réfléchir, mais je ne vois pas pourquoi.
Harold lui dit, je le prendrai à vivre, et puis c'est une très bonne affaire. Ton hôtel particulier a été construit pour la Pompadour. Un petit bijou, vous l'achetiez, comme personne n'aura les moyens de l'avoir, il sera détruit. Vous ne l'achetez pas. Et puis, c'est très joli, un très joli cadeau pour votre fils. Une belle résidence. Et cela mettra du cachet à votre famille. Vous avez déjà l'hôtel avenue Velasquez, le château en Bourgogne, un à Oulin, et maintenant cet hôtel en plein Paris. Peu de grands seigneurs n'en avaient autant. Ces deux morts vont vous lier aux grandes familles de l'ancien régime, monsieur.
Maurice sourit et lui dit, moi, un ancien maçon, tout ça.
Harold lui dit, votre fils va être la première génération qui n'aura pas travaillé de ses mains et qui d'un seul coup sera plus riche, le plus riche de France et peut-être même de plus loin. Alors il mérite une demeure digne de ce qu'il est. Et là, c'est grâce aux efforts, au travail de son grand-père et de son père. C'est une fortune issue de la sueur de leur front. Il n'y a pas à en avoir honte.
Maurice lui dit, vous avez raison. Je veux bien visiter cet hôtel. Après, nous verrons.
Vous me dites combien Et le prix? Il est raisonnable.
Oui, monsieur.
Parce que ce genre de demeure, plus personne ne peut se permettre de l'entretenir. Ça coûte trop cher à l'entretien et les impôts sont exorbitants. Mais vous, vous êtes exonéré d'impôts pour tout ce que vous faites à l'État. Mademoiselle Flore de Haute-Bord a habité pendant un certain temps un hôtel de ce genre au Marais aussi. Il y a de cela plus de 20 ans. Maurice lui dit, bien, vous arrangerez tout ça pour que je puisse visiter cette maison. Vous verrez avec mon secrétaire pour mon temps libre.
Bien, monsieur.
Et Harold se lève et le quitte.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Deux jours plus tard, Maurice, accompagné d'Harold, va visiter l'hôtel particulier qui se trouve dans le Marais. C'est l'hôtel de Madame de Pompadour. L'hôtel se trouve dans une jolie rue où il y a des hôtels. C'est devant un passage qui donne à une cour carrée avec une statue au centre. Au fond de la cour, l'hôtel, belle façade sculptée, escalier de deux côtés qui donne à un perron qui donne à l'entrée de l'hôtel, porte d'entrée vitrée à deux battants. L'entrée avec magnifique escalier de marbre et rampe en pierre sculptée. Le sol du hall est en marbre. Lustre de cristal au plafond. À droite, il y a une porte qui donne au service. À gauche, un petit salon d'attente. En montant au premier, vous avez les salons, un bureau, une bibliothèque, fumoir, salon de musique, salle à manger. En montant au deuxième, se trouvent les chambres, boudoir, salle de bain, petit salon. Je ne m'en vais pas tout vous décrire, mais je peux vous dire, c'est que tout est meublé et en parfait état. Il était entretenu par l'État. L'hôtel de la Pompadour existe vraiment. Mais je ne l'ai jamais visité, donc faisons comme. Mais vous, si vous l'avez vu, faisons aussi comme s'il était dans ce coin de Paris. Si cela vous gêne vraiment, eh ben, appelez-le autrement. Maurice visite et trouve tout très bien. Le directeur de l'agence qui les a accompagnés, c'est un homme petit, gros, cheveux grisonnants.
Cela semble me plaire, mais il faut que j'en parle à l'intéressé.
Le directeur lui dit. Je vous le garde. Vous me donnerez votre réponse, mais rapidement.
Bien entendu, monsieur.
Le soir, Maurice en parle à sa femme au salon.
Mais pourquoi veux-tu que ton fils aille vivre seul?
Il lui répond,
c'est pour son bien, tu comprends, il faut qu'il apprenne à vivre de lui-même, il est en âge de le faire.
Elle lui dit, déjà, mon Dieu!
Oui. Et moi, j'ai commencé beaucoup plus tôt que lui. C'est plus un enfant, tu sais.
Elle soupire et lui dit.
Déjà, comme le temps passe, suis-je si vieille que ça?
Mais non, tu n'es pas vieille. Mais c'est lui qui a grandi.
Tu crois qu'il va s'en sortir tout seul?
Il lui dit.
Nous serons là pour l'aider. Alors, on achète cet hôtel?
Elle lui dit.
Mais comment vais-je faire pour m'occuper de tout ça? Il me fait avoir des domestiques, un argent fou. Ne faudrait-il pas mieux qu'il ait un petit appartement pour débuter?
Maurice lui dit.
Tu as sûrement raison. Je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que pour un début, c'est un peu grand. Surtout qu'il n'a pas de situation.
Le lendemain, il en parle à Harold.
Ce serait pas sérieux qu'ils vivent dans tout ça,
Harold lui dit.
Vous ferez une bonne publicité.
On prendrait les frais de l'hôtel dans le budget publicité et même recevoir des allègements fiscaux à cause de ça. L'hôtel étant à votre fils sera en même temps la vitrine de la société.
Vous n'avez qu'à faire, une fois par an, une grande fête payée par la société à vos clients. Comme ça, tous les frais de l'entretien, la restauration sera pris par la société. Tout en étant propriétaire, votre fils sera le locataire de l'hôtel et même l'employé responsable de l'hôtel. Le directeur responsable de l'hôtel et à ce titre, il aura le logement de fonction.
Voilà, il ne payera ni le loyer, ni les impôts, ni les domestiques, ni l'eau, ni l'électricité, rien. Et comme il est propriétaire de la société, il est aussi de l'hôtel. Voilà, le côté financier est réglé. Et en plus, votre fils, comme employé, il aura un salaire pour vivre chez lui.
quel prestige aussi pour la maison Franblanc, propriétaire de l'hôtel de la Pompadour, hôtel d'époque avec ses meubles d'époque. C'est presque Versailles. Les Américains ne peuvent faire que des copies. Vous, vous avez des originaux.
Si, et lui dit, vous avez parfaitement raison. Comme cela, je mets mon fils dans la société par cet intermédiaire. Je vais lui en parler dès ce soir.
Et le soir, Boris, dès qu'il rentre chez lui, il va directement dans la chambre de son fils.
Frappez à la porte.
Entrez.
Il entre. Son fils est à son bureau.
Ah, c'est vous, père?
Oui. Il va vers lui. S'assoit sur une chaise.
Près de lui. Et lui dit, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Et qui va transformer ta vie. Écoute-moi bien.
Et il lui raconte tout. Le fils écoute bien. Le père finit, il lui dit,
tu as un travail, une maison et en même temps un bon salaire de direction. Tu continues tes études comme d'habitude. Mais une fois par an, l'on prépare une espèce de fête comme les aiment les commerciaux. Alors, qu'est-ce que tu en penses? En fait, ton salaire, c'est plus de l'argent de poche qu'autre chose. Tu n'auras presque rien payé.
Gilbert réfléchit et lui dit, je crois que je peux dire oui. Merci papa, mais et maman?
Elle est au courant, un peu triste, mais je lui ai dit que tu es tout prêt. Bien, je vais préparer tout ça et l'on va signer.
Le lendemain matin, Gilbert en parle à Julien, qui lui dit
« C'est bien, tu verras, vivre seul, c'est bien. »
Le soir,
Elle le dit à Nathalie après ses cours.
Nous aurons notre maison à nous. Alors, elle lui dit, c'est bien. Je ne sais pas si je pourrais aller chez toi, ma mère. C'est bien lui, ta mère. Tu es major. Et il l'embrasse.
Une semaine plus tard, Gilbert, accompagné de son père, achète l'hôtel. Il est acheté au nom de la société, mais c'est spéculé que les francs blancs pourront toujours en profiter comme locataires à vie, eux et leurs descendants. Puis, une fois que la vente est faite, Gilbert fait visiter à Nathalie et Julien l'hôtel. Ils le trouvent tous les deux formidables.
Nathalie lui demande, mais comment tu vas faire pour l'entretien ?
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.